किसके संबंधी सैक्रिफिस होती है?
C'est un autre, c'est le mot que le Gita emploie pour le don de soi.
Nous avons deux chapitres ici, c'est le don de soi et l'autre. C'est le sacrifice.
Seulement le sacrifice est mutuel. Dans le sens que c'est ce qu'il dit au commencement, que le divin s'est sacrifié dans la matière pour réveiller la conscience dans la matière, qui était devenue inconsciente. Et c'est ce sacrifice du don de divin dans la matière, c'est-à-dire de sa dispersion dans la matière, qui légitime et rend obligatoire le sacrifice de la matière au divin. Parce que c'est un seul et même mouvement de réciprocité. C'est parce que le divin s'est donné dans la matière et s'est répandu partout dans la matière pour la réveiller à la conscience divine, que la matière est automatiquement dans l'obligation de faire le don de soi au divin. Et c'est ce qu'il, n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit jusqu'à la fin de ce que nous avons lu. C'est un sacrifice mutuel et réciproque. Et ça, c'est ça qui constitue le grand secret du Gita. C'est l'affirmation de la présence divine au cœur même de la matière. Et que c'est à cause de ça que la matière doit se sacrifier au divin. Automatiquement, même inconsciemment, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est ce qui se passe. Seulement, quand on le fait inconsciemment, on n'a pas la joie du sacrifice. Tandis que quand on le fait consciemment, on a la joie du sacrifice, qui est la joie suprême. Le mot sacrifice, en français, n'a un sens un peu trop réduit, qu'il n'a pas dans l'original sanskrit. Parce que en français, sacrifice implique quelque chose comme une souffrance, presque un regret. Tandis que dans le sens sanskrit, ce n'est pas là du tout. C'est l'équivalent de don de soi. C'est tout.
Oui, c'est écrit. Tous sont joints les uns aux autres par une secrète unité.
Oui.
Quelle est cette secrète unité?
C'est là, justement, la présence divine. Parce que le divin est essentiellement un, et pourtant, il sait justement subdivisé en apparence dans tous les êtres, et ainsi il a recréé l'unité primordiale. Et c'est à cause de cette unité divine qui a pourtant l'air morcelé dans les êtres, que l'unité est rétablie dans son essence. Et quand on devient conscient de ça, alors on a la joie de la conscience de cette unité. Mais les êtres qui ne sont pas conscients, ce qui leur manque, c'est la joie de la conscience. Mais la chose est la même. Il dit là, l'unité existe. Que vous en soyez conscient ou non, elle existe. Seulement, quand vous en devenez conscient, vous avez la joie de cette unité. Quand vous n'en êtes pas conscient, elle existe tout de même, en dépit même de votre totale inconscience ou de votre démenti, mais vous n'avez pas la joie de cette unité parce que vous n'en avez pas la conscience. Tout ce qu'il a écrit, c'est ça. Ce qui veut dire que vous en soyez conscient ou non, ça ne fait aucune différence, en fait. Mais ça vous fait une différence pour vous. Si vous êtes conscient, vous avez la joie. Si vous n'êtes pas conscient, vous manquez de cette joie.
Mais comment est-ce que le sacrifice se fait quand on est inconscient?
Il se fait automatiquement. Que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes tous unis par la présence divine, qui, ayant l'air morcelé, est pourtant une. Le divin est unique. Et il a seulement l'apparence du morcellement dans les choses et les êtres. Et parce que cette unité est un fait, que vous en soyez conscient ou non, ne change rien au fait. Et vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous êtes malgré tout soumis à cette unité. C'est ce que je vous ai expliqué je ne sais combien de fois. Que vous croyez que vous êtes séparés les uns des autres, mais que c'est une même substance unique qui est en vous tous, malgré les différences d'apparence. Et que l'une vibration dans un sens éveille automatiquement une vibration dans un autre. Et que vous croyez ou que vous ne croyez pas que vous êtes unis, vous êtes unis en fait. Par quelque chose dont vous êtes inconscient. Mais que vous, encore je répète, que vous en soyez conscient ou que vous n'en soyez pas conscient, ça ne fait aucune différence, la chose existe. Elle existe en soi, indépendamment de votre conscience. Si, par conséquent, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, votre être appartient à l'unité divine. Si vous en êtes conscient, alors vous avez la joie de cette conscience. Mais si vous n'en êtes pas conscient, la chose existe tout de même, mais vous n'avez pas la joie. Voilà toute la différence.
Alors, il n'y a pas d'effort pour faire, pour améliorer le sacrifice, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de faire un effort.
Je ne comprends pas du tout la conclusion. Si vous êtes heureux d'être malheureux, c'est très bien, c'est votre affaire. Si ça vous satisfait d'être malheureux et de voir la souffrance et d'être dans la condition d'ignorance et d'inconscience où vous êtes, restez-y. Mais si ça ne vous satisfait pas, si vous voulez être conscient et si vous voulez que la souffrance s'arrête, alors il faut que vous fassiez des efforts constants pour devenir conscient du sacrifice et pour faire le sacrifice consciemment. Au lieu de le faire inconsciemment, le faire consciemment. Tout tourne autour de l'inconscient. Du fait d'être ou de ne pas être conscient. Et c'est seulement dans la suprême conscience que vous pouvez arriver à la parfaite expression de vous-même. Mais que l'unité existe, même si vous sentez tout le contraire, c'est un fait auquel vous ne pouvez rien, parce que c'est un fait divin. Parce que c'est une action divine et que c'est un fait divin. Si vous êtes conscient du divin, alors vous devenez conscient de ce fait. Mais si vous n'êtes pas conscient du divin, le fait existe, mais simplement vous n'en êtes pas conscient. C'est tout. Alors tout tourne autour d'un phénomène de conscience. Et le monde est dans l'état d'obscurité, de souffrance, de misère, de tout ce qu'il est, simplement parce qu'il n'est pas conscient du divin. Parce qu'il a coupé la connexion dans sa conscience. Parce que sa conscience s'est séparée du divin. C'est-à-dire qu'il est devenu inconscient. Parce que la vraie conscience, c'est la conscience divine. Si vous vous coupez de la conscience divine, vous devenez tout à fait inconscient. C'est justement ce qui est arrivé. Et alors, tout ce qui est, le monde tel qu'il est, votre conscience telle qu'il est, les choses dans l'état où elles sont, sont le résultat de cette séparation et de cet obscurcissement immédiat de la conscience. De la minute où la conscience se sépare, conscience individuelle se sépare de la conscience divine, il entre dans ce que nous appelons l'inconscient. Et c'est cette inconscience qui est la cause de toutes les misères. Mais que tout ce qui est essentiellement divin et que l'unité divine est un fait, vous n'y pouvez rien. Toute votre inconscience et tous vos démentis n'y changeront rien, c'est un fait. C'est comme ça. Et la conclusion, c'est que la vraie transformation, c'est la transformation de la conscience. Et que tout le reste s'en suivra automatiquement. Voilà. rien.
Quelle est la partie en nous qui oppose à tout renoncement?
C'était comme si tu me demandais qu'est-ce qui est inconscient en nous. Mais en fait, tout est inconscient excepté le divin. Et c'est seulement quand on peut s'unir au divin qu'on rétablit la conscience vraie dans son âme. Le reste, c'est quelque chose comme un mélange de semi-conscience et de semi-inconscient. Oh, sa langue débauche.
Une seule. Donne quotidiennement hors de son capital.
Quoi?
Chaque existence donne quotidiennement hors de son capital.
Oui.
Alors dans ce cas, cette aiguille, elle reçoit de son entourage quelque chose en retour. Ils sont toujours volontaires et involontaires.
Oui. C'est ce que je viens de dire. Alors quoi?
On reçoit volontairement ou involontairement.
Oui.
Quelque chose de réciproque.
Oui. Et alors?
De son entourage ou simplement de dedans.
Oh. Des deux?
Parce que cette église, si elle reçoit de son entourage.
Oui. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a une unité dans la matière, une unité dans la manifestation, une unité dans la substance, et qu'il y a nécessairement un intérêt chaud. Mais tout, n'est-ce pas? En fait, c'est ce que nous avons dit déjà plus de 50 000 fois. Que tout est divin et que par conséquent tout est un. Que c'est seulement votre conscience qui est séparée et qui est dans un état d'inconscience parce qu'elle est séparée. Mais que si vous supprimez cette inconscience et ce sens de la séparation, vous devenez divin. Oh, mais il ne faut pas comprendre les choses d'une façon si superficielle.
Alors, ici, cet entourage de Dieu, c'est l'unité du divin.
L'entourage, ça veut dire quand vous êtes dans la chambre, ça veut dire les gens qui sont dans la chambre qui vous entourent. Dans la vie ordinaire, quand on est dans une famille, ce sont les membres de la famille et les amis qui sont votre entourage. Entourage, ça veut dire entourage. Ça veut dire ce qui vous entoure. Ça veut dire non, c'est le divin dans l'inconscience qui aspire au divin dans la conscience. C'est-à-dire que sans divin, il n'y aurait pas d'aspiration. Sans conscience cachée dans l'inconscience, il n'y aurait pas de possibilité de changer l'inconscience en conscience. Mais c'est parce qu'au cœur même de l'inconscience, il y a la conscience divine que vous aspirez et que vous, nécessairement, c'est ce qu'il dit, automatiquement, mécaniquement, le sacrifice se fait. Et c'est pour ça que quand on dit ce n'est pas vous qui aspirez, c'est le divin, ce n'est pas vous qui faites des progrès, c'est le divin, ce n'est pas vous qui êtes conscient, c'est le divin, ce ne sont pas des mots, c'est un fait. Et c'est simplement votre ignorance et votre inconscience qui vous empêchent de vous en apercevoir.